c'est un changement concret de vie. C'est-à-dire, tout d'un coup, à 5, on gérait 15 milliards de dollars, l'équivalent du budget de la Tunisie. On parle à Tokyo, Hong Kong, Singapour le matin. On termine avec New York et Wall Street le soir. Et puis tout d'un coup, je me trouve dans une cave à fromage tout seul au fin fond du massif des Bauges à retourner des fromages de Tamier. En pensant à la question de ma mère, mais pourquoi as-tu fait Sciences Po Paris pour retourner les fromages ? Mystère de Dieu. Bon, alors, avec le Dieu des chrétiens, c'est une dynamique. Donc c'est un engagement, on prend des décisions, et sur le moment, on voit peut-être pas forcément où Dieu veut en venir. Et effectivement, dans ma cage à fromage, lapsus révélateur, ma cave à fromage, j'avais le temps de me poser des questions. Et je me dis, bon, moi je suis rentré dans ce monastère, j'ai redécouvert Dieu par la prière, j'aime bien les moines parce que les moines ne sont pas prosélytes, ils cherchent pas à vous passer à la moulinette de l'Ancien et du Nouveau Testament avec un baptême à la clé par immersion dans les 15 jours. Donc j'aime bien leur formule, ils travaillent, ils prient, et puis les gens qui veulent venir, ils les accueillent. Donc un monastère, c'est pas un lieu fermé, puisqu'en fait, dans la communauté où j'étais, dans l'abbaye de Tamier, il y avait 35 moines, mais à table dans l'hôtellerie, il y avait 35 personnes. Il y avait 120 000 visiteurs par an, donc c'est une communauté qui accueille sa relation au monde, c'est plutôt une relation d'hospitalité. Moi, je suis heureux dans ce monastère. On n'a pas attendu dans les monastères la Révolution française pour apprendre la démocratie. C'est depuis le 7e siècle qu'on élit les abbés à bulletin secret. Et quand il y a un nouveau membre qui arrive dans la communauté, on vote. Et donc, moi, j'ai toujours des votes positifs. Il y a des votes de sondage. On n'a pas attendu la Sauffresse non plus pour faire des sondages. Et bon, j'ai toujours des votes positifs. Et donc je me dis, bah, si les frères considèrent que c'est ma place ici, c'est bien. Bon, il y a forcément des difficultés, des passages plus difficiles. Mais alors je me heurte à un problème tout bête. Et c'est là où les secrets d'un engagement passent aussi par des choses qui coincent, le grain de sel qui vous empêche d'avancer dans la direction à laquelle vous pensiez. C'est que chez les trappistes, on se lève à 3h30 le matin. Bon, ça à la limite... pas trop de problèmes, on peut faire comme les boulangers, mais alors moi j'ai besoin plutôt de 8 heures de sommeil, et les trappistes c'est 7 heures de sommeil. Il faut s'endormir en un quart d'heure, là vous avez 7 heures de sommeil, parce que vous avez l'office des complis le soir, l'office des vigiles le matin, il n'y a jamais de vacances, jamais de week-end, j'essaye d'expliquer ça à mes amis, ils n'arrivent pas à comprendre, mais c'est du non-stop quoi, le même horaire tout le temps. Alors arrivé, bon, 15 jours, un mois, etc., très bien, mais au bout de 5 ans, je leur dis, bon écoutez, maintenant c'est la question de l'engagement définitif. Est-ce que c'est quand même pas faire injure à Dieu que de ne pas respecter mon rythme de sommeil? Il y a des gens qui chaussent du 35, d'autres du 45, vous leur mettez pas des chaussures du 35. Si... Donc moi, vous m'avez mis un lit, c'est très sympa pour placer mes 1m94, ça c'est bien. Je sais pas, soit il y a un aménagement d'horaire, soit je vais pas pouvoir rester. Alors gros débat en communauté, bon j'ai mon côté un peu syndicaliste, je cherche à faire avancer le mouvement vers 8 heures de sommeil, mais bon, sans succès. Bon, prenant acte du fait que Dieu n'a pas répondu concrètement à ma prière, ben, je dis à la communauté, ben voilà, je vais être obligé de partir. Moi je prends ça comme une réponse de Dieu concrètement. Et ma question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviens un gentil organisateur dans les Caraïbes avec le Club Med? Est-ce que j'épouse une veuve en sortant du monastère? Est-ce que, enfin bon, il y a 36 000 possibilités. Hein. Et j'ai toujours cette question quand même que j'ai trouvé mon compte dans cette vocation monastique. Donc il y a quand même quelque chose. Et en même temps, le père abbé, le responsable de la communauté, me dit « Mais quand tu es arrivé à Tamier ?» Je me rappelle très clairement que tu m'as dit que tu as vu une vision. Alors j'ai dit oui, c'est vrai, effectivement, quand j'ai quitté la banque, j'ai donné la démission à la banque Indosuez, j'étais encore à Paris, j'avais déjà écrit au monastère pour retourner à ce monastère que j'avais découvert peu avant, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais une vision, alors, une vision très simple. Il paraît que les jeunes filles souvent se voient dans leur robe de mariée blanche, donc vous voyez, tout le monde peut avoir des visions. Moi, je me voyais, ce qui était bizarre, je me voyais à Marseille, une ville à l'époque que je ne savais pas écrire correctement. J'étais un journal et je l'écris comme on l'écrit en américain avec un S à la fin. Erreur que j'ai fait sur Brive une fois dans un courrier internet et je m'en repens publiquement. Donc, je ne sais pas écrire Marseille. Pourquoi ? Parce que je ne suis jamais allé à Marseille. Je ne connais personne à Marseille. Et je me vois à Marseille, entouré d'enfants visiblement venus du sud de la Méditerranée, que j'aide pour leurs devoirs à l'école. Voilà. Et quand j'arrive au monastère, de fait, je parle au moine qui m'accueille. Je lui dis, c'est bizarre, je me suis imaginé à Marseille, Pourtant, je suis jamais allé à Marseille, je connais personne à Marseille, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il m'a dit, bon, bah, si ça revient, faudrait voir, etc. Bon, ne connaissant personne à Marseille, me plaisant dans la vie monastique à Tamier, je fais mon chemin. Mais effectivement, ne pouvant pas y rester parce que je manque de sommeil, eh ben, on me renvoie cette question en me disant, bah, voilà, cette vision-là, ça veut dire quoi? Parce que, me dit mon père abbé, je note que depuis quelques années, surtout depuis 1993, tu me reparles de ces questions, les banlieues, l'islam. Pourquoi je reparle de ces questions? Parce que, on a des frères, comme je vous le disais en introduction, qui sont allés vivre à Tibirine, en Algérie, et qu'à partir de 93, ils sont menacés de mort. Il y a un groupe terroriste qui rentre au monastère, qui épargne les frères alors qu'ils ont assassiné, égorgé 10 jours avant des travailleurs croates à 3 kilomètres du monastère et qui connaissaient bien le monastère. Et puis ce groupe dit, on va revenir. Et donc pendant plusieurs années, on vit dans la crainte pour les frères qu'ils soient assassinés. En tout, en 2 ans et demi, il y a 19 religieux et religieuses qui sont assassinés en Algérie. Mais ces problèmes ne concernent pas simplement l'Algérie, puisque à partir de 94, le terrorisme en Algérie arrive en France. En 94, à Noël, il y a un Airbus qui est détourné par 4 terroristes. Le GIGN intervient à l'aéroport de Marignane, à Marseille, et tue les 4 terroristes. En représailles, on tue 4 pères blancs en Kabylie. Et puis après, il y a des bombes dans les RER à Paris. Il y a un jeune qui s'appelle Khaled Kelkal, qui est un Français d'origine algérienne, qui pose des bombes, qui est finalement tué par la police. Et on sent qu'il y a vraiment une tension, un malaise, à la fois pour des raisons sociales, des difficultés d'intégration, d'emploi dans ces quartiers défavorisés, et puis qui est lié aussi à des questions d'identité, la guerre d'Algérie qui a duré 8 ans, enfin tout un tas de blessures qui demanderait de vivre, disons, des micro-climats de réconciliation grâce à des communautés comme celle de Tibirine, attentives à faire en sorte qu'on vive des expériences positives de fraternité avec nos voisins, même si on est différents. Alors, avec tout ça en tête, mon père abbé me dit, tu n'as qu'à quitter le monastère pendant 1 an. Si tu veux revenir et que tout d'un coup, ces histoires de sommeil ne sont plus un problème, tu es le bienvenu, tu peux revenir à Tamier. Mais va donc voir les communautés qui sont présentes dans les cités HLM. Donc le secret d'un engagement, c'est un premier engagement pour moi qui était plutôt un engagement monastique, voilà. Et puis tout d'un coup, je découvre que dans cet engagement, il y a un autre engagement ou une autre étape qui se dessine. Et je me dis, j'aurais mieux fait peut-être de pas prier une minute quand j'étais chez mes parents, parce que ça finit par coûter un peu cher, quoi. J'ai perdu mon boulot, maintenant je perds mon monastère, et puis je vais aller dans des cités réputées difficiles. Et alors ça se complique parce que je ne trouve pas exactement la communauté que je cherche. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, un vieux moine qui me dit, c'est comme une guitare, il faut que tu trouves une communauté où toutes les cordes sont parfaitement accordées, sinon n'y va pas. Et si tu ne trouves pas cette guitare, fonde quelque chose. Alors je me dis, là ça devient de plus en plus compliqué, je suis tout seul perdu dans des cités que je ne connais pas, et on voudrait que je fonde quelque chose, en plus je ne vois pas en quoi je suis particulièrement original. Bon. Je cherche, je trouve pas exactement ce que je cherche. Et puis j'arrive à un moment donné en banlieue parisienne, dans une petite équipe de la mission ouvrière Saint-Pierre-Saint-Paul, fondée par Jacques Leuve. Et là, j'ai un petit Italien qui me dit, mais quand tu me parles là de ce que tu veux faire, ça me fait penser à 2 religieuses qui vivent dans un quartier difficile à Marseille. Ah, Marseille. Première fois qu'on parle de Marseille. Je commence à écouter, je me suis dit, manque de bol, c'est des religieuses. À moins de changer de sexe, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Puis il me dit, mais il y a des tas de jeunes qui sont autour, qui les aident pour l'accompagnement scolaire, et il y a un type qui s'appelle Karim Debrouker. Je me demande s'il ne se pose pas la question d'une vocation un peu de ton type. Et moi, Karim Debrouker, quand même un prénom arabe, un nom qui vient plutôt du nord de l'Europe, ça fait tilt aussi, parce que ça fait des années que je prie pour qu'on ait un frère du Maghreb, parce qu'il y a un truc qui m'agace, c'est que tous les Arabes avec un grand Z sont tous des musulmans avec un grand M, et sont tous anti-occidentaux, etc., alors que la réalité est forcément plus métissée, et que c'est important aussi d'avoir dans l'Église des gens qui, sur le plan ethnique, sur le plan culturel, apportent de la diversité. On n'est pas tous des catholiques, latins, gaulois depuis des siècles. Il y a quand même une plus grande diversité dans notre grande Église, et ce serait important que ça se voit aussi dans notre pays. Donc, Marseille plus Karim, je me dis, je vais quand même prendre un billet TGV. Je débarque là-bas, et puis, bonne surprise, vraiment, ce que font ces 2 religieuses, c'est formidable, un quartier assez difficile. Et Karim fait bonne impression. Bon, le problème, c'est qu'il n'avait qu'une petite habille. Alors je me dis, bon, bah, pour un futur moine, c'est quand même compliqué. Mais en me voyant arriver, ça lui relance ses questions de vocation religieuse. Alors le pauvre, il passe par des phases pas très commodes. Alors moi, c'est encore pire. Je me dis, mon Dieu, je vais casser un couple qui était en formation. Mon Dieu, c'est pire que Saint Bernard qui allait arracher les enfants à leur mère. Bon, je lui dis, non, il faut surtout pas venir parce que là, c'est un truc nouveau. De toute façon, si tu as une vocation, va dans un gros truc avec la formation dans les congrégations parce que là, on commence un truc, c'est complètement de la folie. Surtout pas, moi, je vais aider les deux sœurs. Je reste à Marseille. Finalement, Karim termine son année de stage, il était professeur de lettres classiques en formation à Avignon, revient à Marseille et puis décide finalement de me rejoindre. Et donc on commence, à la demande de notre évêque, une petite communauté masculine, cette fois-ci dans une autre cité qui s'appelle la cité Saint-Paul. Et donc en 1997, juste après l'assassinat des moines de Tibérine, on commence cette communauté qu'on appelle la Fraternité Saint-Paul, qui est une fraternité pour nos voisins de Saint-Paul. C'est le nom de la cité, mais la fraternité Saint-Paul, Saint-Paul, c'est aussi celui qui a apporté l'évangile dans toute la Méditerranée. Donc c'est une lecture polysémique. Et là commence donc cette aventure d'un style nouveau, c'est-à-dire une vie monastique. Alors moine, ça vient de monos, grec, qui veut dire un, donc c'est des célibataires. Les moines, avant, habitaient dans les déserts d'Égypte, c'était pas simplement des lieux de silence et de solitude, mais c'était la banlieue de l'Empire romain quand l'Empire romain est devenu chrétien. Et en fait, les premiers moines cherchaient non seulement une vie de prière et de contemplation, mais dans ce qu'on appelle les apophthegmes des pères du désert, les sentences de ces premiers moines, on a beaucoup de paroles assez dures sur l'Église instituée, en particulier les évêques, qu'on trouvait trop à coquiner avec les puissants et les riches de l'époque. Et donc les moines de l'époque étaient allés dans les déserts parce que c'était des lieux réputés dangereux, difficiles, des lieux périphériques, et c'était déjà la banlieue de l'Empire où allaient les bandits, les gens peu recommandables. Et on se pose la question avec Karim, on se dit, mais est-ce que c'est pas important ce choix du lieu? L'habit ne fait pas le moine, mais peut-être que l'habitat fait le moine, le lieu, le choix du lieu. Et habiter dans ces périphéries urbaines, où paraît-il personne ne veut aller habiter, qui sont réputées dangereuses, souvent de manière excessive, mais c'est aussi des lieux où il est important qu'il y ait des présences chrétiennes, et que comme au Moyen-Âge, les communautés monastiques allaient aussi s'implanter dans des lieux, des communautés païennes qui ne connaissaient pas l'Évangile, et puis après on voit ce qui se passe avec les interactions dans le voisinage. Donc c'est comme ça finalement, c'est de tout cet enchaînement d'une relation à Dieu et de questions et de discernement qu'est né cet engagement. Engagement, et je ne veux pas que je sois trop long, qui donne des fruits, les fruits d'une mission, si vous voulez, d'un engagement chrétien qui n'est pas perçu comme un espèce d'engagement confessionnel dans lequel il faudrait absolument se définir comme chrétien, pas chrétien, membre de l'Église, pas membre de l'Église. La plupart de nos voisins sont musulmans. Alors c'est très intéressant de voir comment réagissent des voisins musulmans. Je me rappelle que quand je suis arrivé, il y avait un de mes jeunes voisins, Abdou, qui me parlait les yeux fermés parce que je portais une croix. Alors je lui dis, Abdou, c'est vraiment très sympa de me parler, mais alors les yeux fermés, ça fait bizarre. Il me dit, oui, mais le problème, c'est que dans le Coran, il est écrit qu'on ne peut pas regarder ce que tu as au cou. Je lui dis, mais tu tombes mal parce que moi j'ai lu plusieurs fois le Coran. Et il n'y a aucune sourate qui t'interdit de regarder les croix. D'ailleurs, ton prophète était très intelligent parce que quand il a reçu le Coran de l'ange Gabriel, il savait qu'il y aurait un jour des musulmans en France et il savait que si tous les musulmans fermaient leurs yeux quand ils conduisaient une voiture, il y aurait beaucoup d'accidents et bientôt tu vas passer ton permis. Et à mon avis, ce n'est pas une très bonne idée de fermer les yeux à chaque fois que tu vois une croix. Mais ce n'est pas du tout mon baratin exégétique ou ma rationalité occidentale qui lui fait ouvrir les yeux. Il continue de parler les yeux fermés. Quelques mois après, il s'aperçoit que ses copains viennent jouer au Scrabble chez nous. Ils ont l'air de bien s'amuser. Un jour, il craque. Il vient et pour gagner la partie, il doit ouvrir les yeux, évidemment. Et donc, c'est ça. C'est la logique du voisinage qui lui fait ouvrir les yeux. Et puis, un an après, il vient à l'accompagnement scolaire. Nos voisins nous ont demandé, pas nous, hein, nos voisins nous ont demandé de nous occuper des enfants. Donc, il y a de plus en plus d'enfants qui viennent chez nous. On se retrouve avec 80 personnes le soir chez nous. On monte une équipe d'une soixantaine de bénévoles, des gens qui n'habitent pas le quartier. Et ça tombe bien, parce que dans ces gens-là, il y a à la fois des étudiantes africaines de notre paroisse qui ont des thèses de doctorat, qui ont la peau foncée et qui montrent à nos voisins comoriens qui ont aussi la peau foncée qu'on peut faire une thèse de doctorat si on a la peau foncée. Symboliquement, c'est important. Mais il y a aussi des blancs aux yeux bleus qui montrent que, bah oui, tous les Français, comme ils disent, sont pas racistes. Ils viennent dans notre quartier. Et puis les gens qui viennent dans les quartiers, qui viennent des beaux quartiers, s'aperçoivent que dans nos quartiers, il n'y a pas que des vols de voitures, des délinquants. Il y a aussi des familles étrangères qui arrivent, qui ne peuvent pas faire autrement qu'habiter là, avec des jeunes qui veulent s'en sortir, qui sont sympathiques, et qui, de fait, s'en sortent, puisque maintenant, on a des jeunes qui ont réussi des études supérieures et qui ont trouvé des emplois même de cadre. Et cette logique de rencontre fait que progressivement, les logiques confessionnelles, en fait, ne résistent pas. Et je vais terminer avec cette petite histoire pour qu'on puisse passer aux questions. C'est que on a des petites voisines qui un soir nous disent on a discuté hier, on voulait savoir si vous iriez au paradis. Alors moi je leur dis, pour ce qui est du paradis fiscal, moi j'ai fait mon choix, hein, j'y vais plus. Hein. Elle dit non, le vrai paradis. Et j'ai dit mais qu'est-ce qu'il dit ton papa? Elle me dit normalement vous ne pouvez pas aller au paradis parce que vous êtes chrétienne. Bon, mais elle avait l'air quand même un peu embêtée. Et puis quelques mois après, elle revient pour rendre des livres. On a une petite bibliothèque gratuite donc pour que les enfants lisent. Elle rend un livre et puis au détour de la conversation, elle dit « Ah, hier, on a encore parlé de vous à table. » Je dis « Ah bon, et alors, qu'est-ce que vous avez dit ?»« Bah, nous, on était embêtés que vous n'alliez pas au paradis. » Alors, on a dit à papa « Il faudrait peut-être aller voir un autre imam pour voir si c'est pas possible. » Que Karim, Henri, Jean-Paul, Jean-Michel, parce que bon, quand même, ils nous aident pour l'école, ils vous aident pour faire des CV, pour trouver des emplois, ils aident tout le monde, c'est pas juste. Donc ils avaient trouvé un imam et apparemment l'imam était revenu avec une autre réponse en disant que si on faisait des choses bonnes, on pouvait peut-être aller au paradis. Donc Asmahan me dit, hier, mon père il m'a dit que peut-être, si vous êtes gentil, vous pourrez aller au paradis. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu en penses? Je suis contente pour vous. Et donc on sentait que derrière ces paroles d'enfant, il y avait toute une discussion familiale et qui aboutissait à quoi? Et je vais terminer là-dessus. Ça aboutissait finalement à revenir à ce secret de l'engagement qu'on souhaiterait manifester, c'est-à-dire au lieu de s'attaquer à l'islam en disant « Attendez, Jésus a vraiment été crucifié » ou « Qu'est-ce qui se passe pour les minorités religieuses ou les femmes dans vos pays, etc. » c'est de dire « Essayons de vivre en bonne intelligence et essayons chacun de devenir un peu plus intelligent de l'autre, de donner des gages de notre fraternité, à partir de notre commune humanité, en vivant ensemble et en faisant que les gens se rencontrent, pour que progressivement, on arrive à une théologie qui est très simple et qui est celle du chapitre 25 de saint Matthieu. Et souvent, je fais sursauter les chrétiens quand je leur parle de ça. Et une fois, j'étais dans une église à Nice, et ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je leur ai dit, voilà, c'est comme si cette église où on est ce soir, c'était le paradis. Et ben dans Matthieu 25, ceux qui arrivent dans le paradis, c'est pas forcément les bons catholiques qui ont été à l'église le dimanche, c'est pas forcément les bons juifs qui ont été à la synagogue, c'est pas forcément les bons musulmans qui ont été à la mosquée tous les vendredis. C'est qui? Eh ben Jésus raconte une parabole, c'est pas Henri Quinson, c'est Jésus qui dit, voilà, c'est l'histoire d'un roi, les gens arrivent au paradis, il y a des gens qui débarquent, ils ont un beau t-shirt « I love Jesus », ils lui expliquent qu'ils ont bien mis un cierge à la Vierge Marie à Lourdes, etc. Enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ici, Saint-Antoine, le cierge à Saint-Antoine, voilà, ici. Hein. À Brive, ouais. Donc il y a aussi des gens de Brive qui débarquent, qui ont bien mis leur cierge à Saint-Antoine. Et Dieu leur dit, mais attendez, moi je vous connais pas. J'étais étranger, vous m'avez pas accueilli. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais prisonnier, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. Et il donne une liste de 6 choses qui n'ont rien à voir avec des démarches confessionnelles. C'est simplement aimer concrètement les personnes qui sont autour de nous. Voilà. Et à l'inverse, alors dans cette église à Nice, ça m'a vraiment fait rigoler, ce soir-là, je me dis, et à l'inverse, il y a un militant du Parti communiste, de la CGT, qui arrive au paradis, il a milité toute sa vie pour expliquer que Dieu n'existait pas. Bon, c'est un militant communiste qui n'a pas massacré les chrétiens et les juifs en URSS pendant 70 ans. Hein. Quelqu'un qui s'est battu pour la justice sociale, qui a créé quelques grèves de la SNCF, etc. Mais qui, quand même, a essayé d'améliorer le sort des gens qui ont des difficultés. Et Dieu lui dit, ah bah ça tombe bien, Georges, on va l'appeler Georges Marchais, par exemple. Ça tombe bien parce que... J'étais étranger, tu m'as accueilli, j'étais pauvre, tu m'as donné à manger, etc. Il lui donne la signe et il ne lui demande pas s'il avait la carte de la CGT ou du Parti communiste. Et s'il n'a pas commis d'atrocité, il est accepté. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que ce soir-là, à Nice, au moment des questions, il y a quelqu'un qui me lève la main et qui dit « Voilà, je suis un militant CGT du Parti communiste français dans l'église à Nice. Je vous ai écouté attentivement et finalement, je viens de comprendre ce soir qui j'étais. Je suis un pratiquant non-croyant. » J'ai trouvé la formule intéressante. Voilà. Et donc, à travers notre commune humanité sur la base de ces évangiles, qui sont des évangiles de la fraternité, le royaume de Dieu, c'est un royaume fraternel. Certaines personnes font partie de l'Église, et c'est une grâce de faire partie des disciples appelés par Jésus pour faire Église. Dans cette Église, elle a évidemment son rôle. Mais le royaume de Dieu dépasse infiniment l'Église, et on peut même parfois se poser la question de savoir s'il y a des gens dans l'Église qui sont bien dans le royaume de Dieu. Voilà, nous compris. Donc il y a toujours effort à faire pour être converti, converti à une mission, et je vais terminer là-dessus, que définissait frère Christophe qui a été assassiné à l'âge de 45 ans. Et frère Christophe, enfant, voulait être missionnaire, il est devenu moine, je trouvais ça vraiment bizarre, et dans une de ses dernières lettres, il dit « Je découvre de plus en plus une mission », il utilise le mot « mission », devenir frère. Voilà. Et donc, mon engagement, c'est un peu celui-là que je voudrais mettre en avant, c'est essayer de devenir frère. Là, il y a des problématiques nouvelles dans ces quartiers. Un quartier qui existe, qui a été construit en 62, moi je suis né en 61, c'est des parcelles d'humanité qui sont confiées à ma génération. Mais cette problématique, cette vocation, on peut la vivre dans sa famille, dans son milieu professionnel, devenir frère. Et donc, c'est une vocation qui n'est menaçante normalement pour personne et qui n'appelle qu'une seule conversion, la nôtre. Et c'est ça, à mon avis, le secret de l'engagement, c'est de rencontrer ce Dieu qui nous convertit ici maintenant, pas simplement dans l'au-delà. Merci pour votre écoute.